grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h.
Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Alors ouais, je sais, la période n'est pas des plus riantes et personnellement, je ne sais pas ce que je préfère entre la lumière qui baisse, les jours qui raccourcissent, cette petite pluie fine qui, la coquine, vient se glisser pile là où vous pensiez être au sec, sans oublier la Toussaint, fête des morts et son cortège d'ombres zombiesques qui viennent nous rappeler à l'ordre au cas où nous viendrait malgré tout l'envie saugrenue de sourire. Ouais, donc je sais. Mais je sais aussi que la vie est toujours une question de point de vue, de choix, d'histoire qu'on se raconte. Alors le point de vue, c'est que comme tous les derniers vendredis du mois, on vous embarque loin, oh, très loin, jusqu'en Islande et jusqu'à Gengis Khan aujourd'hui. Le choix, c'est de se dire qu'on peut aussi se faire la malle aux Seychelles ou en Savoie, comme vous voulez. Et les histoires qu'on va se raconter, elles nous parlent d'une belle-mère qu'on empoisonne à coups de pain d'épices et de fleurs qui ont le drôle de pouvoir de faire fondre la neige. Tout ça au coin du feu, verre de vin chaud à la main, avouez que ça va mieux. Alors venez, ouais, venez avec nous, vous pouvez nous rejoindre à tout moment, vous le savez. Des idées voyage, des questions jardinage, des envies de cuisine, cocooning, surtout. Écrivez-nous soit sur l'appli France Inter, soit sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Voire, allez, soyons dingues, soyons fous. Appelez-nous au 01 45 24 7000. N'oubliez pas, cette émission se fait avec vous.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Julia Foyce.
Et pour notre escapade Vendredal, bah on dit bien dominical, donc je ne vois pas pourquoi on dirait pas Vendredal, j'ai le plaisir d'accueillir trois bonnes fées, quatre bonnes fées qui vont veiller sur vos week-ends, vos vacances, vos soirées. Et bonjour Nathalie Elal.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste gastronomique en charge de la rubrique Histoire et Alimentation à Histoire Magazine. La belle-mère empoisonnée et les cavaliers de Gengis Khan, c'est vous, enfin c'est surtout
oui,
le pain d'épices.
Oui, j'essaye. Hein oui, c'est le pain d'épices.
Et c'est un beau et long voyage dans le temps et dans l'espace.
Oh là, hein, jusqu'en Chine, jusqu'aux contrées septentrionales des cavaliers de Gengis Khan, effet.
On vous suivra, vous nous mettrez un petit peu de saveur sur le palais quand Philippe Collignon, lui, nous mettra un peu de couleur dans le jardin ou sur le balcon. Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Vous êtes paysagiste et chroniqueur sur France Télévisions. En votre qualité d'expert, vous nous affirmez que oui, faire pousser des plantes et des fleurs malgré le froid, malgré la pluie, c'est possible.
Mais elles poussent toutes seules, même sans nous, vous allez voir, elles ont plein de choses dans leur petite escarcelle.
Démonstration, dans moins d'un quart d'heure, de l'un à l'autre, il n'y a qu'un pas et un Pierre Langlais pour nous le faire franchir. Pierre Langlais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste série pour Télérama et vous serez le nôtre. Ce matin, je vous ai lancé un petit défi, hein, nous conseiller en série à chaque fois, à chaque thème de la matinée, une série. Alors, gants relevés ou pas?
Oui, oui, on va y arriver, mais à ma propre surprise, il a fallu que je creuse un peu, mais effectivement, il y a des séries sur presque tout. Et on va vous le prouver.
Ce qu'on verra avec joie. Avant ça, on embarque, on décolle en un mot, on se taille grâce à vous. Sandrine Mercier, bonjour.
Bonjour Julia, bonjour à toutes.
Vous êtes la rédactrice en chef du magazine AR, la revue du voyageur, revue avec en photo de une pour le numéro d'octobre-novembre, une cascade qui semble fendre la montagne sous une voûte de nuages. On est en Islande et au-delà d'un pays, c'est une autre planète, nous dit le titre. Alors, pouvez-vous Sandrine, s'il vous plaît, d'abord planter le décor, ça ressemble à quoi l'Islande?
C'est très vert, ça va faire plaisir à Philippe.
Très rocheux.
Très rocheux. Par contre, il n'y a pas d'arbres, ça fait moins plaisir.
Beaucoup de vent,
Il n'y a pas d'arbres, beaucoup de vent. Il y a des elfes aussi, par contre, qui courent un peu partout dans la forêt, dans les champs.
On ne déplace pas une pierre sans demander l'autorisation au gouvernement, c'est vrai.
Ils détournent même des routes, donc pour éviter de réveiller les elfes. Ouais. Alors, écoutez, on y va l'été, on y va avec Arnaud Guérin, nous, dans AR, parce que c'est vraiment un spécialiste. Il a fait 65 voyages. Et figurez-vous que cette île, elle est toujours en train de grandir. Chaque année, elle prend 2-3 cm parce qu'elle s'étire, elle est à cheval sur deux plaques tectoniques. Donc c'est l'effet magique de l'île. Alors l'été, c'est vrai qu'on y va plus nombreux, donc il faut éviter le sud parce qu'il y a beaucoup de plages de sable noir très belles d'ailleurs, Vic. Mais moi, je vous conseille plutôt d'aller voir les volcans parce que ça, des volcans, il y en a beaucoup, il y en a 200, même si le pays a annoncé la disparition de l'un d'eux cet été déjà. Alors on va aller sur le Sneffels. Là, on est à 3 heures au nord-ouest de Reykjavik, la capitale. Vous avez peut-être entendu parler de ce volcan, parce qu'on ne parlait pas de série là, mais déjà Jules Verne, c'est là qu'il a fait l'entrée par ce volcan, Sneffels, pour aller au centre de la Terre. Et c'est vraiment un lieu chargé en énergie. Ça fait partie des 8 chakras de la Terre pour les hindous. Donc c'est vraiment un lieu où on peut aller se regorger. Il y a plein de sources chaudes aussi, on peut admirer les orques, et il y a plein de petites guest houses dans cette presqu'île, donc on peut vraiment vivre à l'islandaise. Il y a une autre rando aussi sur un autre volcan qui s'appelle le Laki. Est-ce que, alors les historiens connaissent bien le laki. Est-ce que vous, vous connaissez le laki?
Non.
C'est
non.
Ce n'est pas une boisson. Non, c'est
une boisson indienne.
Ouais, franchement, je vous le dis, hein, si ça se mange pas, ça m'intéresse pas.
Bon, on est deux. Hein.
Mais c'est quand même une histoire. C'est à cause. On dit que c'est à cause de l'éruption de ce volcan qui a eu lieu quand même la Révolution française. Parce que il y a effectivement, c'était en 1783. L'éruption a créé énormément de fumées qui sont venues s'abattre sur l'Europe de l'Ouest. Ça a créé énormément de mauvaises récoltes qui ont enchaîné de la famine et qui à terme auraient suscité la Révolution française. Donc
c'est pas rien.
Et on peut aller marcher. On peut aller marcher donc sur les fissures du laki.
Alors partir en Islande, c'est s'offrir avant tout un voyage sensoriel, Sandrine, avec par exemple ce bain dans le Blue Lagoon, piscine naturelle dans un désert de lave froide. C'est un reportage de Stéphane Cotte, il avait été diffusé dans votre émission Sandrine en 2010 sur France Inter au détour du monde.
Voilà, là on a actuellement la tête à 5 degrés dans l'air pur islandais. Et le corps immergé dans une eau entre 38 et 40 degrés. Et c'est ce plaisir dans ce pays, là, un petit rayon de soleil qui va sortir, regarde, sur les vapeurs qui sont derrière là-bas. Voilà, dernier rayon de soleil. Le plaisir dans ce pays d'utiliser la chaleur de la terre, l'eau chaude de la terre, dans cette air pure. Et tout le bénéfice, en plus de cette eau, qu'on a, là, voilà, autour de nous, avec la silice, les sels marins, des algues, qui font un bienfait relaxant pour la peau, voilà.
Alors du reste, on voit les gens qui sont autour de nous. Les gens ne nagent pas, hein. Les gens restent immobiles dans l'eau.
Non, ce n'est pas l'endroit où on nage, c'est plutôt le principe des bains, c'est de la relaxation. Il est même interdit de nager. Le rejet des vapeurs condensées a permis ce lagon naturel, on s'est baigné par plaisir. Et l'hiver avec des aurores boréales, avec moins 5 et la neige autour, dans une eau à 40 degrés.
Alors Sandrine Mercier, j'allais vous dire, voilà, l'Islande, c'est un voyage, on est en lévitation, tout ça, mais sur ma gauche, Nathalie Elal ne cesse de me dire « La morue, Julia, la morue !» Alors donc la morue.
C'était pas une insulte du tout, hein, je précise.
Non, parce
que
pas de moi.
Non, je me permettrai pas, Julia, certainement pas. Non, les Islandais, c'est surtout, c'est un peuple super courageux, c'est ça qu'il faut dire. Ils sont toujours très courageux, mais ils ont été particulièrement courageux à des époques où ils allaient sur des petits bateaux de pêche improbables, pêcher la morue et ramener, et c'était vraiment le moyen de subsistance de l'île pendant des siècles. La pêche à la morue, pêcheur d'Islande, Pierre Loti, hein, raconte aussi tout ça.
C'est pour qui l'Islande quand même? Parce que c'est pour des gens qui vont supporter qu'ils fassent 8-20 heures par jour quand même. Il n'y a que 4 heures de lumière par jour.
On attaque effectivement la saison hivernale, donc, mais ça fait une lumière très mystérieuse. C'est vraiment, on découvre vraiment avec cette lumière des atmosphères absolument, absolument incroyables, donc il faut être prêt à découvrir ça. L'été, c'est la journée continue, donc ça, on vit 24 heures sur 24. L'hiver, on rentre dans quelque chose, effectivement, de plus cocooning. Il faut aimer la nature, il faut aimer l'expérience du paysage. Quand on rentre dans l'hiver, il faut aimer les tempêtes, il faut aimer les mers agitées, il faut aimer la pluie, il faut aimer tout à coup un rayon de lumière qui va vous changer complètement la vie.
Et c'est la saison des aurores boréales, quand même.
Quand même, on va à la chasse aux aurores boréales. Alors, c'est pas donné, hein. C'est pas à coup sûr qu'on va les voir, mais on a quand même beaucoup de chance à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Il y a ces sortes de particules, effectivement, créées par le rayonnement solaire qui viennent entrechoquer avec l'atmosphère terrestre. Et ça fait ces filaments verts, rouges, blancs. Je sais pas si vous en avez vu, ça tombe du ciel, ça dégouline, ça danse, ça rend vraiment les nuits magiques en Islande.
Pierre Langlais, l'Islande et les séries, ça donne quoi?
Ça donne pas grand-chose pour l'instant, mais quand même. Mais quand même. Non, mais il faut savoir que les séries nordiques et scandinaves, on met tout le monde dans le même paquet, hein, mais ont fait une très forte impression ces dernières années. Et donc les Islandais s'y ont mis, et il y en a qu'une qui a été vraiment visible en France et qui a été en prime time, donc le soir sur France 2, qui s'appelait Trapped, prisonnière. Alors je n'ai même pas réussi à comprendre comment ça se disait le titre original en islandais. En revanche, je vais vous tenter un truc, c'est le nom de la ville dans laquelle ça se passe. Ça se passe à Seydisfjordur. Alors bien sûr, les gens qui parlent islandais, c'est une vraie ville, hein, vont m'en vouloir. C'est au nord-est du pays et il se trouve qu'il y a un bateau en provenance du Danemark qui arrive là. Et au moment où le bateau arrive, on découvre un corps dans le port et donc tout l'enquête va commencer. Le héros est un flic. Comme on peut imaginer une caricature physique d'islandais, un ours avec une barbe imposante, très a priori très posé, mais qui évidemment va se prendre les pieds dans une enquête très complexe. Et puisqu'on est dans une série qui se passe en hiver en Islande, il va se mettre à neiger, un truc incroyable, et ils vont se retrouver coincés tous, trapped, donc d'où le titre,
génial.
Piégés sous une épaisse couche de neige. Et donc là, on est dans la période qu'on était en train de décrire. Hein. On est dans la nuit permanente, dans le vent, dans la neige. En plus, il y a un type qui se met à tuer d'autres gens. Enfin bref, vous connaissez bien les
génial.
Séries maintenant qui viennent du Nord. Sauf que là, eh ben, c'est en Islande et c'est en islandais. Et c'est arrivé quand même le soir, hein, en prime time sur France 2, ce qui n'est pas une mince affaire pour une série islandaise qui, encore une fois, est assez débutante en la matière.
Et tous les ingrédients pour qu'on devienne accro. En revanche, si on a envie, Sandrine Mercier, d'un peu de chaleur, hein, si on se dit c'est magnifique, hein, les aurores boréales, j'adore, mais en fait j'ai froid, on part aux Seychelles ?
Ouais, c'est vraiment le voyage d'une vie quand même, hein, les Seychelles. Ouais. Je conseille, faut pas y aller avant 40 ans quand même, parce qu'après. Oui, parce que c'est tellement
même
beau,
trop jeune.
C'est tellement.
Okay.
Non, c'est vraiment tellement incroyable qu'après tout ce qu'on peut voir, ça peut paraître fade. Enfin, vraiment,
d'accord.
Moi j'ai fait ce voyage il y a pas longtemps et je regrette pas parce que je me disais un jour j'irai, je l'ai quand même savouré, je l'ai attendu. C'est loin quand même, c'est pas donné non plus. Donc et moi je l'ai fait à bord d'une vieille goélette de 100 ans. C'était le Sea Pearl. Alors il faut imaginer qu'il y a 100 ans il était à la pêche au hareng dans la mer du Nord.
On y revient.
Et maintenant pour sa retraite, il a été transformé. Il y a 5-6 petites cabines sur ce vieux hareng. Et on part comme ça d'une île à l'autre. Chaque journée, c'est une découverte nouvelle. Alors, la plus dingue, c'est quand même l'île de la Digue. Ça vous parle, cette plage qui s'appelle Anse, source d'argent?
C'est pas ce qui est genre la plus belle plage du monde après les plages italiennes.
Elle a été élue la plus belle plage du monde. Alors je sais pas ce qui fait la plus belle plage du monde, mais quand on est là-bas, c'est vraiment l'effet waouh, garanti. Il y a une succession de plein de petites baies comme ça. Il y en a une dizaine avec d'énormes roches en granit. C'est ce qui fait vraiment l'effet Seychelles, hein, avec cette eau si transparente. Et on peut se baigner. On prend juste avec son masque et son tuba et on voit vraiment des poissons partout, de multicolores. On voit des raies, on voit des tortues géantes, c'est vraiment des poissons perroquets, c'est incroyable.
Sandrine, j'adorerais vous suivre complètement, vous savez nous embarquer. En même temps, je connais nos auditrices et nos auditeurs, certains d'entre eux sont en train de dire « Mais c'est pas du tout écolo !» Et c'est vrai que partir aux Seychelles là maintenant, comment vous dire, qu'est-ce qu'on fait?
Bah c'est vrai que c'est un peu ce qui
s'offre.
Enfin, nous, on a un magazine de voyage AR, donc c'est vrai qu'on donne des envies de voyage, on fabrique du rêve aussi autour de ça. Après, c'est vrai que c'est le voyage d'une vie, on n'y va pas pour juste 4-5 jours, on y va au moins pour 15 jours, par exemple. Donc on a son bilan carbone, effectivement.
Et on pense à compenser carbone
et
éventuellement
compenser,
quand on prend un billet
par exemple.
D'avion.
Ça nous déculpabilise un peu quand même.
Ou alors on se fait les Seychelles à la télé, c'est possible ça, Pierre?
Oui, c'est tout à fait possible. Alors là, je vous avouerai que quand vous m'avez dit, allez, on parle de Seychelles, j'ai fait, oh, c'est fou. Jamais on y arrivera. Et pourtant, on tourne là-bas. Alors, il y a eu notamment, il y a quelques années, une mini-série Crusoe, hein, comme son titre l'indique, sur Robinson Crusoe. Et les Seychelles sont souvent utilisées comme l'île déserte. C'est-à-dire qu'on va tourner là. Alors, les Américains vont à Hawaï, c'est moins loin. Les Européens vont aux Seychelles. Et alors, le plus improbable, c'est qu'une des séries françaises les plus connues de l'histoire, un gars, une fille, passé en bonne. Enfin, il y a eu un bout de saison entier aux Seychelles où ils font, ils s'occupent de la plage, ils font un club. Enfin voilà, ils sont là-bas, ils sont pas en vacances, ils sont pour bosser. Et ça a été tourné aux Seychelles et ça se présente comme un gars, une fille aux Seychelles vraiment. Comme quoi, c'était l'époque où ils savaient se faire plaisir. Ils disaient, on irait bien où en vacances. Allez, on va tourner là-bas. Comme ça, en plus, on est payé pour aller sur les plages des Seychelles. Et donc tous
pas
les épisodes, ils sont sur Internet. Hein, les épisodes. Moi, j'ai tapé Seychelles et boum, je vois
un gars, une fille
apparaître. Et effectivement, ils étaient aux Seychelles, ils étaient sur les plages, etc. Là-bas.
Le petit côté vintage des Seychelles. Rapidement, si on rêve d'une destination un peu plus abordable à tous les niveaux, on file en Savoie, Sandrine ?
Oui, j'y étais encore hier. La forêt était magnifique. Oui, j'ai pris le train. Le train fonctionnait hier. J'ai pu rentrer. La forêt, enfin, les bouleaux sont jaunes, les érables sont rouges, les mélèzes, c'est vraiment la saison absolument magnifique. Et
alors, je vois Nathalie là, qui fait oui de la tête. Non, parce que j'étais pour un festival de gastronomie le week-end dernier, justement à Megève, et je dois dire que côté fromage, la Savoie, ça me parle, et la montagne, ça vous gagne.
Et là, la montagne, vous avez peut-être entendu parler, le nouveau tracé du Tour de France 2020, il est tombé cette semaine, et il va y avoir une arrivée inédite au sommet du col de la Lauze. Donc là, on est au-dessus de Méribel, et non pas Megève. Et cet été, mais il se trouve que je l'ai fait, moi, oui, je l'ai fait à vélo. À vélo électrique, pardon.
Tricheuse.
Moi, je l'ai fait à vélo, mais poussée par quelqu'un.
Et c'était vraiment génial.
Et avec votre petit manteau...
Non, cet été, non, j'étais en t-shirt.
Un petit manteau argent, là.
C'est pour aller sur la Lune.
Une doudoune de dingue.
La doudoune glitter, quoi. Vraiment.
C'est pour mon prochain voyage sur la Lune. Je m'apprête à... Mais là, c'était à vélo, en tout cas. J'ai pas pris une fusée. Et en fait, entre Méribel et Courchevel, il y avait un chemin de terre entre ces stations. Et ils ont décidé de le goudronner pour arriver sur le col de la Lauze et interdire aux voitures. Oui, oui, on fait
Il y a Pierre Langlais qui fait.
Mais c'est réservé aux vélos. C'est-à-dire que donc le Tour de France va s'arrêter cette année au sommet du col de la Lauze. On est quand même à 2304 mètres. Il y a 800 mètres de dénivelé depuis Méribel. Et à terme, donc, il va y avoir le plus grand projet vers une future via Trois-Vallées. Donc l'ambition, c'est vraiment de parcourir tous ces domaines à vélo sans croiser une seule voiture en pleine montagne. Et là, on voit le Mont Blanc, on voit le parc de la Vanoise, on voit les glaciers. On est vraiment immergé dans la nature grandiose.
Et pour la Savoie en série, vous allez sûrement reconnaître la bande son, Pierre Langlais.
Oui, bien sûr. Ça parle pas trop de fromage d'ailleurs. Ça parle plutôt de gens qui sont morts et qui reviennent. Mmh. Eh oui, une des séries françaises les plus marquantes
excellente
de l'histoire,
série.
Les Revenants, ouais. Deux saisons diffusées sur Canal, se passaient en Savoie. A été tourné en bonne partie à Annecy et il était question énormément d'un barrage, d'un grand barrage qui retenait un lac et qui était un petit peu la menace permanente puisqu'il menaçait de s'effondrer et qu'il s'était déjà effondré par le passé en se recouvrant, noyant le village. Donc Les Revenants, histoire d'une petite ville où des gens décédés reviennent, mais pas en zombies, pas pour manger tout le monde, juste ils reviennent, ils savent pas trop ce qui s'est passé et les gens voient taper à leur porte leurs maris, leurs enfants décédés et revenir dans leur vie. Et donc oui, ça se passait alors dans une Savoie qui était un peu américanisée. On parlait beaucoup de Twin Peaks, il y avait des corps parfois un peu américains, etc. Mais pour le coup, on était bien dans les montagnes françaises.
Que vous soyez plutôt volcan ou série télé Islande ou Seychelles, vous êtes tous les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Nos experts gastronomie, séries, voyage et jardinage sont là, alors surtout n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 45 24 7000. Toutes vos questions, vos témoignages nous intéresse.
Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire. Un anno d'amore, cosa vuol dire? Un anno d'amore. Lo so non servirà e tu mi lascerai. Ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Un anno d'amore.
Mina, un anno d'amore, un minimo un anno, vogliamo una vita, mais oui, une vie d'amour avec ce qu'il faut d'escapades gourmandes, d'échapper au paradis, de plonger dans les salles obscures de binge-watching et de pique-nique champêtre. Ça tombe bien, ils sont là, nos spécialistes voyage, gastronomie, jardinage et séries. Vendredi, loisirs, c'est avec Sandrine Mercier, Nathalie Elal, Philippe Collignon, Pierre Langlais et vous, bien sûr, qui nous écoutez.
Je viens justement de faire du café, il doit être encore chaud. T'en veux ?
Tu parles si j'en veux.
Grand bien vous fasse.
Avec 4 sucres et un nuage de lait.
Sur France Inter.
Philippe Collignon, au secours. Parce que personnellement, quand une plante me voit, elle décide de se défenestrer. Vraiment, c'est vraiment, vrai. Je vais choisir ma propre mort.
Donc vous êtes
et je
sur
vais
un moi-même, balcon élevé alors
je, oui, ah, et en ça. Fait, elle dit non, je vais sauter. Je préfère choisir le moment de ma propre mort. Donc, comme je pense que je ne suis pas la seule, aidez-nous et dites-nous ce qu'on peut faire en hiver, si on a envie quand même de voir fleurir quelques plantes.
Il y a plein de choses qui fleurissent en hiver. Il y a plein de plantes qui ont des fleurs. Alors, il y en a moins qu'au printemps, évidemment. Il y en a moins en été. Mais en hiver, vous avez plein de plantes qui ont fleuri. Vous avez deux types de plantes. Les plantes qui sont pollinisées par les insectes, qu'on appelle entomophiles. Et puis, les plantes qui sont pollinisées par l'invisible, par le vent, etc., anémophile. Et en hiver, il y a beaucoup de plantes qui ont choisi d'être pollinisées par le vent, tout simplement. Donc, il y a moins d'insectes, mais il y a aussi des pollinisateurs en hiver. Il y a des mouches. Et ben, les mouches pollinisent aussi nos fleurs. Donc, il y a des fleurs en hiver qui se font polliniser et qui offrent énormément de fleurs, tout simplement. Vous avez, par exemple, les lébores. C'est la fleur la plus connue qu'on appelle la rose de Noël, qui commence à fleurir à partir du mois de novembre. On en trouve même à partir du mois d'octobre dans certaines jardineries, jusqu'au mois de mai, parce que après la floraison, elles changent de visage, elles deviennent vertes ou elles deviennent plus foncées, et donc vous avez une post-floraison. En plus, c'est une plante extraordinaire. Même si vous n'avez pas la main verte comme vous, vous la mettez en pot, et vous ne la dépotez pas, parce qu'elle est caractérielle. C'est-dire, elle n'aime pas, comme la pivoine, être baladée ici et là.
Mais moi aussi, je suis caractérielle. Donc, si elle n'est pas d'accord avec moi, je
ne
suis pas d'accord avec elle.
Donc, ça vous va très bien, les bords. Donc, la rose de Noël. Donc, vous avez différentes couleurs, du blanc crème au blanc pur, en passant par le noir, en passant par le rose, le rouge. Donc, la rose de Noël, on mise sur la bonne plante pour avoir des fleurs en plein hiver. Vous avez le jasmin d'hiver. Alors ça, c'est une très vieille plante de nos jardins que nos ancêtres avaient. Donc elle est semi-remontante, semi-grimpante. Donc elle fait des petites fleurs jaunes en plein cœur de l'hiver. Elle résiste à moins 15 degrés. Donc ça, c'est vraiment la plante idéale également pour ceux qui n'ont pas la main verte. Vous avez le mahonia. Alors les feuilles sont un peu piquantes, mais le feuillage est tout à fait extraordinaire. Et ce sont des grappes de fleurs dorées, parfumées, qui viennent mettre en scène votre jardin en plein cœur de l'hiver. Vous pouvez les associer aussi avec beaucoup d'arbres. Vous avez parlé de bouleaux, etc. Beaucoup d'arbres qui ont des écorces en hiver. On peut se balader dans une forêt et découvrir le charisme de l'arbre et évidemment les écorces. Donc on peut associer les fleurs et les écorces. Puis vous avez le laurier thym. Thym, T-I-N, pas comme le thym pour l'infusion. Le laurier.
Parce que Nathalie et moi, on était partis voilà, sur le thym.
C'est ça, c'est pour ça que je préfère T-I-N. Donc c'est une plante persistante qui offre des corolles de fleurs blanches parfumées, un petit peu rappelant le miel. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Également, très intéressante lorsqu'on n'a pas la main verte. Elle monte à 4-5 mètres. On peut la mettre aussi dans une haie végétale puisqu'on parle beaucoup de biodiversité et d'écologie. Donc ça, c'est vraiment très bien. Puis vous avez le kimonanthe. C'est une plante extraordinaire parce qu'elle fleurit sur bois nu, donc il n'y a pas de feuilles. Et vous avez ces petites fleurs couleur jaune porcelaine, transparente, magnifique, qui également rythme l'hiver.
Et est-ce qu'on a des plantes, pour le coup, qui se mangent ? Est-ce qu'on peut faire pousser des choses qui...
Alors, vous avez des plantes aromatiques vous avez les légumes perpétuels que l'on peut consommer en plein cœur de l'hiver.
Lesquels ?
Vous avez, par exemple, les tubercules, tout ce qui est tubercules qu'on a stocké. Par exemple, les pommes de terre, les topinambours,
ça
se consomme en hiver. Ah, pas sur un balcon.
Sur un balcon,
sur un balcon vous avez des aromatiques. Vous avez encore de la sauge, du thym, du romarin, évidemment.
Ah, ça tient l'hiver, la sauge.
Bien sûr,
la sauge, c'est hyper résistant parce que même avec moi, elle tient. Mais je vous jure, même avec moi, elle tient.
Et puis, vous avez des sauges aujourd'hui chocolat. Vous avez des sauges ananas.
Menthe chocolat.
Vous
aussi.
Avez des sauges oranges, vous avez des parfums tout à fait sublimes qui vont aussi changer vos recettes de cuisine. Donc il y a énormément de choses à faire au jardin en hiver. Déjà en profiter, déjà respirer, déjà sortir et puis s'émerveiller.
Pierre Langlais, si je vous dis série et botanique, vous me répondez?
Oui, alors je ne sais pas si c'est une plante aménophile, et j'ai pas entendu, j'ai oublié l'autre, donc je suis désolé.
Entomophile.
Entomophile, mmh. Mais les séries télé, particulièrement ces dernières années, aiment bien cultiver une certaine herbe qui rend joyeux, comme on disait, comme disait quand j'étais gosse.
Est-ce que ça pousse en hiver, ça?
Ça pousse toute l'année, mais il faut avoir un équipement nécessaire. Pour cela, allez sur Internet.
Le cannabis, puisqu'il faut la nommer, a été au centre d'une série qui s'appelait Weeds, qui fait partie un peu avec un
très
rôle
bonne
important.
Série.
Ouais. Voilà, qui était une comédie dramatique sur une mère de famille veuve.
Excellente comédienne, Sarah Jessica Parker, non c'est ça?
Non,
je confonds Marie-Louise Parker, je confonds avec Sex and the City.
C'est exactement, se retrouvait dans le besoin financièrement et qui, dans son petit lotissement bourgeois californien, non pas californien, on était dans le désert, ou plutôt dans le désert californien, je crois, se met à cultiver du cannabis et puis des choses de plus en plus complexes. Et qui se retrouve embarqué dans des histoires un petit peu louches. Et donc, évidemment, c'est un moteur comique, le cannabis, puisque ça permet de créer le contraste entre cette mère de famille qui a l'air bien sous tout rapport et le trafic qu'elle va faire.
Alors attendez, je crois que c'est le moment, il faut que je le dise. Le cannabis est illégal, évidemment. C'est une drogue, on ne consomme pas, où on fait très, 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 très attention. Pierre Langlais.
Bien sûr. Et d'ailleurs, en général, les séries, sans être tout à fait moralisatrices, nous font comprendre qu'à un moment ou un autre, elle va le payer.
J'ai très peur que ça. Nathalie Hélal, qui a très envie de dire quelque chose sur ma gauche, nous parle de Space Cake. Mais
Oui, exactement. Mais
de gâteau vous...
Oui,
au
oui.
Cannabis.
Alors, parce qu'en fait, ça a été inventé dans les années 50 et par la compagne de l'écrivaine Gertrude Stein, qui s'appelait Alice Toklas, une américaine, qui a donné la recette des fudges au cannabis, années 50.
Voilà, et c'est donc le moment où moi je me fais virer.
C'est
on
gratuit.
Est le 25 octobre, il est 10h32 sur France Inter. Merci beaucoup.
C'est dans les séries que ça se passe. Non, mais d'ailleurs, il y a une série française toute récente sur Netflix qui s'appelle Family Business, malgré son titre, c'est une série française, avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon. Ouais. Qui a repris un peu le principe, puisque c'est une famille qui tient une boucherie dans le sentier, qui va la transformer en bûcherie, comme ils disent, et donc commencer à se lancer dans le trafic de cannabis, là aussi, dans une France un peu parallèle où il est question d'une légalisation. Parce qu'il faut dire aussi que les Californiens n'ont pas tout à fait le même regard que nous sur
c'est
le cannabis, puisque
la loi n'est pas
alors
la même.
À l'époque, c'était pas encore le cas, mais aujourd'hui, il y a une légalisation qui a eu lieu.
Si on parle plante légale, pas interdite, pas addictive, on part sur quoi? On part sur du Desperate Housewives, par exemple?
Par exemple, les séries où il y a des jardiniers qui apparaissent. Et c'est vrai que Desperate Housewives s'est arrangé pour que le dit jardinier John Roland apparaisse torse nu la plupart du temps, et donc c'était moins...
Ça nous change des femmes à poil,
William,
là.
Voilà. Vous voulez que...
Non. C'était... Allez-y.
C'était moins question de plantes que de physique, pour dire les choses simplement.
Alors, pour ceux qui auraient déjà oublié, je ne sais pas comment, qui était John Roland, le voici.
Oh, j'ai quelque chose pour vous. Je la gardais pour quand j'irai tondre votre pelouse, mais vu que vous êtes là...
Oh, c'est une rose!
Pas n'importe quelle rose. Regardez ses pétales. Pas un seul défaut. Elle est parfaite.
Ah, oh, John.
Comme vous.
La réalité l'avait clouée sur place.
J'ai passé des jours et des jours à la chercher. Je l'ai enfin trouvée.
Pour John, il ne s'agissait plus d'une petite histoire sans importance. Gabriel comprit qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Elle est magnifique. Je dois y aller.
Je dois y aller.
On y était déjà.
Ah, c'est là qu'on se souvient que c'était bien un soap opéra, hein, comme on dit. Hein.
Oui.
Elle est belle comme vous. Moi, je vais la garder, celle-là, ça peut toujours servir.
Non, je vous le déconseille très fortement, ça marche pas du tout.
Donc voilà, effectivement, des séries qui... Alors après, c'est vrai que ça se dissout beaucoup dans les histoires, puisque nombreuses sont les séries où il est question à un moment ou à un autre du jardin où le personnage va possiblement passer ses week-ends. Et figurez-vous que nous avions parlé, pour préparer cette interview, de Downton Abbey, où évidemment il est beaucoup question de jardin. Et bien figurez-vous qu'il y a eu des personnages de jardiniers qui sont passés par-ci, par-là, mais que c'était pas un des personnages clés de la série. Donc chose
ça
assez étonnant. Bah oui, voilà. En même temps, c'était plutôt l'intérieur de la maison qui intéressait le scénario, mais j'étais assez surpris de me rendre compte que finalement le jardinier de Downton Abbey dont on parle le plus, c'est un animateur britannique d'émission de jardinerie qui avait dit: moi, si un film se fait, ce qui a été le cas, il est sorti il y a pas longtemps, je demanderai à jouer le jardinier.
Ouais. Et il faut savoir que la comtesse de Carnarvon qui tient Downton Abbey, enfin le château, a un jardin magnifique à côté. À l'anglaise, il n'y a pas que des vallons et des moutons, il y a aussi un très beau jardin à l'anglaise dont elle s'occupe personnellement.
Pierre Langlais, un dernier mot, monstre aux plantes?
Bah oui, moi c'est vrai que quand j'entends plantes et séries, alors on pense dessins animés, c'est vrai qu'on met pas toujours les dessins animés dans la catégorie série, mais ce sont des séries de fait, puis il y a des saisons, il y a des épisodes, etc. Et il y a une série des années 80 qui s'appelait Jace et les conquérants de la lumière, il se trouve que c'est français. Oui, mais tous ceux qui ont dans mes âges, c'est-à-dire entre 35 et 45 ans, se souviennent de cette série-là.
Beaucoup plus jeune.
1985 et l'histoire de dans un monde, ça fait penser à une forme de déclinaison d'Ulysse, d'un jeune homme qui se bat contre des plantes monstrueuses qui sont capables de se transformer en voitures pensées Transformers. Donc c'est assez improbable. Il se trouve que ces plantes ont été créées pour résoudre le problème de la famine dans le monde par un scientifique qui est le père du héros, sauf que il a raté son expérience et c'est devenu les monstres plantes, des plantes qui prennent forme humaine et qui se transforment en voitures maléfiques.
Et on se demandera quelle plante il avait consommé avant de
regarder Weeds.
Et donc, du coup, c'est quand même dingue parce que les plantes sont les méchants dans cette histoire-là.
Elles sont pas toujours gentilles, les plantes. Hein.
Alors, Philippe Collignon, tant que je vous tiens, vous ne bougez pas, j'ai encore pas mal de questions à vous poser sur cette drôle d'histoire de floraison hivernale. Si vous aussi, vous avez des questions pour votre jardin, votre balcon, surtout n'hésitez pas, quand on a un Philippe Collignon sous la main, on en profite. Et pour ça, vous le savez, il y a l'appli France Inter, la page Facebook de Grand Bien vous fasse, et bien sûr, le numéro pour nous joindre en direct, c'est le 01 45 24 7000. En attendant vos douces voix, en voici une intense, immense, celle de Rachida, sans doute partie chasser les aurores boréales, qui sait.
Je suis africain, africain du nord au sud, et je suis africain. Dedans comme dehors, je suis africain. Je n'ai pas le rythme de la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Rachida, je suis africain. Vous voyez qu'elle peut avoir de la gueule, votre Toussaint.
Julia Foyce, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Même si je sais que c'est pas stricto sensu, la Toussaint, ça va, on peut avoir une conception un petit peu plus large des choses, Philippe Collignon, oui ou pas?
La Toussaint, c'est la fête de tous les saints, donc pour moi, c'est très positif.
Voilà, j'ai tout là. Voilà. Une fois par mois, le vendredi, on se fait plaisir, on parle loisir dans Grand Bien Vous Fasse. Avec nous, cette semaine, Sandrine Mercier, rédactrice en chef de la revue AR, Nathalie Hellal, journaliste gastronomique pour Histoire Magazine, Pierre Langlais, spécialiste série pour Télérama, et Philippe Collignon, journaliste et paysagiste que je ne lâcherai pas avec cette histoire de plantes qui fleurissent en hiver. Quelles sont les astuces, Philippe, déployées par les plantes pour que les fleurs ne gèlent pas?
Effectivement, une plante qui fleurit au printemps n'a pas la même chance de fleurir en hiver. C'est-à-dire qu'en hiver, la plante est obligée de déployer une source d'énergie énorme, une sorte de chauffage intérieur pour résister justement au froid de l'hiver qui détruit les sépales, les pétales, etc. Et on a ce qu'on appelle le syndrome du personnage. Est-ce que vous savez ce que c'est, le syndrome du personnage? C'est pas non plus un truc genre de Walt Disney. C'est en fait ces petites fleurs qui percent la neige. Comment elles le font, tout simplement? On s'est jamais posé la question comment la plante finit par percer la neige. C'est pas une force qui vient du centre. C'est-à-dire que en perçant la neige, elle dégage une chaleur. Elle chaufferait la neige et cette chaleur, bien sûr, ferait fondre la neige et permettrait à la plante de fleurir même en cas de neige.
Ça serait pas magnifique d'inventer des systèmes de chauffage comme ça, on aurait sous le parquet des personnages qui, ça serait tellement végétal et naturel.
C'est ça, mais je pense qu'on va, la nature a encore beaucoup de choses à nous apprendre
en termes
de pharmacie, pharmacologie, d'ethnobotanie, etc. Ouais. On a encore beaucoup de choses à observer de la nature et d'en apprendre.
Sur les parfums, un mot peut-être?
Plein de parfums en hiver, on se dit non, le parfum c'est au printemps, c'est en été. On a par exemple le chèvrefeuille d'hiver. Le chèvrefeuille d'hiver, il dégage à plus de 5-6 mètres par rapport à la plante, un nuage de parfum formidable et exaltant. Vous avez le joli daphné qui commence à fleurir au mois de janvier, qui fait aussi des fleurs extraordinaires. Là, il est encore plus puissant que le chèvrefeuille. Alors, toutes ces plantes, on les plante près d'une entrée, par exemple, ou sur notre balcon, lorsqu'on aère tous les jours 20 minutes son appartement, parce qu'il faut aérer son appartement tous les jours. Eh bien, vous avez le parfum en même temps qui rentre dans votre appartement. D'où l'intérêt de les mettre dans le sens du vent, toujours pour en profiter.
Mais oui, mais le vent, il tourne.
Ah, le vent tourne. Non, mais vous avez toujours des vents un peu dominants ou des micro-vents ou des micro-climats dans vos jardins.
Excusez-moi d'avoir des considérations pratiques.
Ou sur vos balcons. Mais lorsque vous faites un courant d'air chez vous, le vent, il va d'un point A à un point Z. Donc, vous aurez le parfum qui s'infiltrera chez vous.
Vous êtes hyper gentil avec moi. Dans votre tête, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est neuneux? Et en fait, vous êtes hyper gentil avec moi.
Et puis, vous avez le camélia. Le camélia, pas le camélia japonica qui fleurit au printemps. Le camélia, ça sent quoi? Qui commence à fleurir à partir du mois de septembre-octobre. Qui est parfumé et qui est... Alors, la fleur est un peu moins imposante que le camélia japonica, mais il est extraordinaire en plein hiver.
Nathalie Hellal, Sandrine Mercier, vous avez la main verte, vous, que je me sente un peu moins seule.
Non, mais moi, c'est dramatique.
C'est vrai?
Moi, elle se défenestre pas, elle pleure en voyant la plante.
Elle transpire.
Oui, elle transpire.
Moi, j'ai que des sortes de misères. Moi, j'appelle ça des misères.
C'est Tradescantia, la fameuse misère, une plante d'appartement résistant à tout, formidable.
Ah oui?
C'est vrai,
elle est parfaite, elle dégringole gentiment, il n'y a pas besoin de l'arroser, il y a
besoin de rien l'oublier faire. Pendant 4-5 mois de l'arroser, il n'y a aucun problème.
Ah non, je peux l'oublier. Elle-même toujours, même si je l'oublie. Ouais. Oui.
Moi, métaphoriquement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai une relation particulière avec les cactus qui se portent super bien chez moi. J'ai fait mourir beaucoup de plantes, mais les cactus deviennent dingues et poussent jusqu'au
plafond. Alors l'astuce pour le cactus, vraiment ça c'est à savoir, il faut tourner le pot d'un quart de tour toutes les semaines pour qu'il puisse être noyé de lumière.
Génial.
De façon égale. Et là, vous avez un véritable cactus qui tient bien en appartement, près d'une fenêtre si possible.
Il faut lui faire écouter Jacques Dutronc aussi, au passage.
Oui, oui. Bah, si vous faites les deux, ça va.
Alors, tous ceux qui n'auraient pas la main verte, comme moi, comme Nathalie, comme Sandrine, peuvent toujours se consoler avec Lucas Santana, mais au primero amor.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blá. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. eu danço esse calor.
Foi, foi, foi.
Foi meu primeiro amor.
Foi, foi, foi.
E até hoje eu danço esse calor.
Vous êtes sur France Inter et dans Grand Bien vous fasse ce matin, on vous emmène dans un ailleurs fait d'Islande et de personnages de chèvrefeuilles aux Seychelles, oui, on peut tout imaginer, et aussi de vin chaud et aussi de pain d'épices. Ça y est, vous êtes virtuellement, intérieurement, confortablement installé en vous-même. Alors on peut y aller.
Grand Bien vous fasse sur France Inter.
Et surtout, surtout, si vous avez des petites madeleines proustiennes à nous faire partager, des goûts délicieux qui vous ramènent en enfance, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou bien nous écrire sur notre page Facebook ou sur l'appli France Inter. Avec notre voyageuse Sandrine Mercier, notre paysagiste Philippe Collignon, notre dingue de série Pierre Langlais, nous avons le plaisir de recevoir celle avec qui la gastronomie nous raconte de bien belles histoires, Nathalie Hélal. Celle du pain d'épices est aussi foisonnante que mystérieuse. À quand remonte son origine, Nathalie ? Est-ce qu'on le sait ?
Alors, elle est très ancienne parce que probablement le pain d'épices, c'était d'abord le pain au miel des anciens, donc un mélange de farine et puis de miel, puisqu'il n'y avait pas de sucre de canne, bien évidemment. Et on a même retrouvé la trace qui daterait du 5e siècle avant Jésus-Christ d'un pain condil. C'est un mélange de farine, de lait, de miel et de fromage. Oui, je sais, c'est pas très glamour, mais ça se mangeait comme ça à l'époque. Et puis, chez les anciens peuples nordiques, il y avait aussi un pain au miel qui était fabriqué à l'occasion des fêtes du solstice d'hiver. Alors là, pour le coup, c'était une pâtisserie à base de farine et de miel parfumée au fenouil. C'était un peu un intérêt, on va dire, rituel chez les Nordiques. Et puis, il y a aussi chez les Chinois, alors ça, c'est plus improbable, mais c'est comme ça, parce que dès le Xe siècle, il y avait un pain de miel qui était distribué en ration aux cavaliers de Gengis Khan dans les steppes. On appelait ça le mikong. C'était un mélange de farine de froment, de miel, aromatisé ou pas avec des herbes, et puis cuit au four, donc un aliment très riche, parfait pour des cavaliers valeureux, évidemment, des steppes. Et donc, les Arabes auraient emprunté aux Chinois ce fameux mikong, ils l'auraient enrichi avec des épices, et puis les Européens l'auraient découvert à l'occasion justement des croisades, donc avec la cannelle, le gingembre, le clou de girofle, l'anis, qui étaient les épices vraiment très très prisées au Moyen-Âge. Et donc après ça, il aurait été fabriqué par des moines dès le XIIIe siècle chez nous, et aussi par les oublayés. Alors, qu'étaient les oublayés? C'était des vendeurs d'oubli, c'est-à-dire des sortes de gaufres, dans les rues des villes. Donc, le pain d'épices devient une sorte de friandise colportée par les marchands ambulants à l'époque. Mais je vous rassure, les nobles des cours royales l'adorent aussi. Mmh. Alors, on sait que Agnès Sorel, qui était la favorite de Charles VII, elle en faisait une intense consommation. Et à tel point que certains ont prétendu qu'elle avait été empoisonnée.
Ah, la belle-mère morte.
Empoisonnée, c'est la pomme de Blanche-Neige. Eh ben non, c'est le pain d'épices d'Agnès Sorel. Elle aurait été empoisonnée donc au pain d'épices par Louis XI, le fils de Charles, qui était jaloux de l'influence de la belle, de sa belle-mère, sur son père. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, sous le règne d'Henri II, on raconte que les Italiens, pense bien sûr aux Médicis, qui sont justement d'habiles fabricants de pain d'épices, incorporent du poison dans leurs produits. Donc le pain d'épices a mauvaise presse, personne n'en consomme. Et puis tout d'un coup, Henri IV arrive et là, le pain d'épices revient en grâce à côté de la poule au pot, peut-être. Et donc, à l'occasion du sacre d'Henri IV, on va créer le pavé, qui est une sorte de pain d'épices géant. Et 2 ans plus tard, le roi va accorder aux fabricants parisiens leur premier statut officiel.
Alors attention Nathalie, vous me dites Paris, mais question qui fâche. La rivalité entre Reims et Dijon en matière de pain d'épices est séculaire. Vous nous diriez quoi? Vous, quel est le meilleur et surtout quelle est la différence?
Alors, je vais fâcher personne. Je suis très consensuelle sur ce coup-là. Le pain d'épices de Reims et de Dijon. Non, ce qu'il faut dire surtout, c'est que d'abord, il y a eu Reims parce que ça a été une tradition dès le XIVe siècle et on relevait le pain d'épices avec de la fleur d'oranger, du miel, des amandes ou même des écorces de citron. Et puis qu'après, alors parce que les miels de la Champagne, il faut bien vous dire que les miels de la Champagne étaient exceptionnels. Et puis, il y a eu un déclin des miels de la Champagne vers le XIXe siècle. Ils ont été remplacés progressivement par du miel breton. Non pas que le miel breton ne soit pas bon, mais il était moins qualitatif pour l'époque, voire par de la mélasse. Et donc, le pain d'épices de Dijon est devenu le meilleur de France à partir de cette époque. Et je crois qu'aujourd'hui encore, il a quand même la préférence de certains. Mais dans les livres de cuisine anciens, on trouve toujours les recettes de pain d'épices de Reims, dès le XXe siècle.
Et le pain d'épices, c'est l'Alsace, ça aussi?
Alors, il y a une grande tradition du pain d'épices en Alsace, notamment à l'occasion de la Saint-Nicolas et puis de Noël. C'est vraiment l'Alsace, c'est le pain d'épices et puis c'est aussi le vin chaud dont on va parler aussi.
Alors pardon, on n'a pas pu s'en empêcher, mais le pain d'épices, plaisir régressif, s'il en est, nous téléporte dans les années 80.
Prosper, youpla, pour mille coups de pain d'épices. Prosper, youpla,
le pain d'épices, quelle délice!
Le pain d'épices de Prosper, ça fait une forme du tonnerre.
C'est vraiment super.
Excellent avec du beurre.
C'est un très bon 4 heures.
Mon Dieu, quel bonheur. Prosper, youplazou, c'est le roi du pain d'épices. Prosper.
Pain d'épices de Prosper.
Et alors en studio, on a un Pierre Langlais qui danse, on a un Philippe Collignon qui secoue la tête. Je suis sûre que vous aussi, vous avez tous replongé vite fait dans vos goûters d'enfance. À l'époque, Nathalie, pour le coup, la forme était assez standard. Hein. C'était rectangulaire, c'était un parallélépipède, comme on dit. Bah, est-ce que ça a toujours été le cas?
Bah, il y a eu aussi des formes plutôt obscènes. C'était très très coquin.
Ah bon?
C'était un truc à message, le pain d'épices. Alors jusqu'à la fin du, pratiquement jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Vous l'écrivez comment? Non.
Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait des formes assez particulières, assez improbables de pain d'épices. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur cette antenne respectable, bien évidemment. Sûr. Ce que je peux vous dire en revanche, et ça c'est assez drôle, c'est qu'en 1827, la première girafe arrive au Jardin des Plantes à Paris. Et là, il y a des pains d'épices en forme de girafe qui deviennent super trendy, super tendance. Ouais, et il y a aussi du pain d'épices en forme de cochon, de petit cochon, depuis toujours. Et une jolie anecdote à ce sujet, si j'ai le temps, c'est que Louis VI le Gros avait un jeune fils qui a été tué par une chute de cheval dans les rues de la capitale. Il a été renversé par un pourceau affamé. À l'époque, il y avait des porcs en liberté dans la capitale.
J'en ai toujours.
Oui, c'est vrai, c'est pas les mêmes. C'est le hashtag MeToo. C'est pas tout à fait la même chose. À l'époque, on n'avait pas le hashtag. En tout cas, il y avait les pourceaux. Et donc, Louis VI a interdit les cochons en liberté dans la ville, sauf pour les disciples de Saint-Antoine qui commercialisaient leur pain d'épices et qui représentaient leur saint avec un petit cochon à côté de lui et un joli petit pain d'épices.
Pierre Langlais, une série sur le pain d'épices, là on rêve par contre.
Mais carrément, je viens de la trouver à l'instant. Je viens de la trouver à l'instant. Mais parce que je me suis dit, quand on dit pain d'épices, on dit Hansel et Gretel.
Ah,
c'est un des trucs qui vient le plus.
Mais bien sûr.
Il se trouve qu'il y a eu il y a quelques années un film qui s'appelait Hansel et Gretel, chasseur de sorcières, hein, Witch Hunter. Hein, vous savez, ce genre de film complètement improbable où il transforme les contes en délire pyrotechnique. Eh bien, une série est en projet. Alors, est-ce qu'elle va arriver ou pas? On ne sait pas, mais voilà, j'ai vraiment tiré le truc par les cheveux. On ne sait pas s'ils mangeront du pain d'épices dans cette série-là. J'en doute.
doute.
Mais bon. Franchement, bravo. Défi relevé, Pierre Langlais. Bravo à vous. Avec le pain d'épices, on boit du vin chaud, évidemment, Nathalie Elal.
Oui, bien sûr qu'on boit du vin chaud. Alors, là encore, origine très ancienne, qui remonte au premier vin dit épicé et probablement une consommation qui date de l'époque romaine. Alors, on faisait à l'époque romaine bouillir du miel dans du vin, on ajoutait du poivre, du mastic, une sorte de résine, du nard, du laurier, du safran et puis des dattes. Donc, évidemment, c'était une boisson assez différente. Et puis, au Moyen-Âge, eh bien, on a voulu recycler le vin parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on ne savait pas conserver le vin. Donc, le vin se buvait jeune parce qu'il tournait très rapidement. Donc, pour masquer les défauts du vin et parce que rien ne se perdait, on ajoutait du miel et des épices dans la préparation et le vin qui sortait des fûts devenait tout à fait acceptable quand il était épicé et bu chaud. Et donc, c'est devenu quelque chose de très festif et c'est encore le cas aujourd'hui puisqu'on trouve eh bien, des vins chauds épicés dans, à peu près dans toutes les grandes fêtes et plutôt dans l'Est et plutôt aussi du côté de l'Allemagne. C'est quelque chose de très germanique, de même d'ailleurs que le pain d'épices hein, qu'on appelle là-bas Pfefferkuchen, c'est-à-dire gâteau au poivre. Eh bien, là-bas, en Allemagne, le vin chaud épicé avec sa tranche de pain d'épices est quelque chose de tout à fait réglementaire, j'ai envie de dire.
Pour celles et ceux qui nous écoutent, un ou deux conseils pour ne jamais rater son pain d'épices ou ne jamais rater son vin chaud.
Je préconiserais pour le pain d'épices de privilégier une recette avec de la farine de seigle.
Ouais.
Parce que je trouve que ça donne un goût meilleur. Alors, ce qu'il faut faire, en tout cas, c'est avoir la patience d'attendre. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de fermentation de la farine de seigle et du miel, du mélange miel et farine. Ça va fermenter et ensuite, au bout de plusieurs jours, si on est équipé quand même en cuisine, une cuisine assez grande pour ça quand même, eh bien, on va ajouter les autres ingrédients qui rentrent dans sa préparation. Et puis, ça va cuire gentiment, ça va embaumer dans la maison, à l'époque de l'automne, de la Toussaint. C'est, je trouve ça assez fabuleux. Quant au vin chaud, j'ai envie de vous dire, mettez ce qui vous fait plaisir. Citron,
on peut tout mettre.
Orange. En fait, c'est assez libre. À l'époque, on recyclait, comme je vous l'ai dit, on mettait probablement pas forcément des épices chères, parce que les épices étaient très coûteuses. Donc, on mettait plutôt des épices qu'on trouvait ici sur l'Hexagone. De l'anis, du cumin, du carvi, du genièvre, probablement aussi des pelures de pommes ou de coing, parce que l'orange, c'était quelque chose de cher et lointain et très exotique. Aujourd'hui, on peut tout se permettre. Mais on pense à l'empreinte carbone, Julia.
Oui, alors justement, je pensais à ceux qui, tout à l'heure, devaient se dire « Les Seychelles, c'est pas super écolo. » Là, je pense que les mêmes se disent le pain d'épices et le vin chaud, c'est pas très très bon pour nous.
Justement,
ça.
Si on privilégie les épices locales, et il y en a, les pelures de pommes ou de coing, le sureau, voire des noyaux de cerises, je sais, c'est bizarre, mais enfin c'est comme ça, on peut aussi le mettre dans le vin chaud. Et puis pour le pain d'épices, on va se contenter peut-être d'anis qu'on trouve aussi sur notre sol.
Et ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit pour ce matin. Un grand merci à vous d'être passé nous voir. Vous reconnaissez la petite musique du générique. Hein. Grand bien vous fasse, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos experts. Nathalie Elal, vous venez de sortir un dictionnaire exquis du chocolat miam chez Albin Michel.
Merci.
Sandrine Mercier, Islande, l'autre planète, c'est à la une du numéro d'octobre-novembre du magazine AR. Philippe Collignon, vous retrouve évidemment sur France 2, sur le plateau de Télématin. Pierre Langlais, on retrouve toutes vos chroniques sur le site de Télérama, télérama.fr. J'ai bon ?
Tout bon, bon.
Eh ben super, ça y est, ben je vais pouvoir rendre les clés au patron hein, la semaine prochaine. Vous retrouvez Ali Rebéi en très grande forme. Merci à toute son équipe de m'avoir accompagné, supporté et bichonné toute cette semaine. Stéphanie Texier pour la réalisation. Alexia Rivière, Clara Marliot avec Julia Macares pour la coordination, la préparation, la documentation et toute une foultitude de choses hein, sur cette émission. Théo Gomard et Kevin Pelot étaient à la technique ce matin. Quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end.